tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard.
Bonsoir Laurent. Bonsoir, bonsoir et merci à Vegardette. En effet, dans quelques minutes, le rendez-vous, une émission drame en série ce soir, avec le metteur en scène Thomas Joly et le philosophe Mathieu Pot-Bonneville. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Vous écoutez France Culture, il est 19h. Sarah Petitbon, bonsoir.
Bonsoir Laurent Goumard, bonsoir à tous. Sans surprise, les députés ont adopté cet après-midi en première lecture le projet de loi sur le renseignement. Le texte qui cristallise nombre de critiques de la part de la société civile, mais aussi de certains parlementaires, sera examiné fin mai au Sénat. Effet inédit, sous la Ve République, François Hollande a annoncé qu'il saisirait lui-même le Conseil constitutionnel pour apporter la garantie que le texte est bien conforme à la Constitution. Au Front National, la rupture est consommée entre Jean-Marie et Marine Le Pen. Le père, suspendu du parti hier soir, s'est dit prêt à livrer une bataille sans merci contre sa fille, quitte à lui mettre des bâtons dans les roues dans sa course pour la présidentielle de 2017. Une perquisition a eu lieu cet après-midi dans la mairie de Béziers. Perquisition menée dans le cadre d'une enquête sur les déclarations du maire Robert Ménard, évoquant un décompte des élèves musulmans dans la commune. François Hollande a rappelé depuis Riyad que le fichage d'élèves dans les écoles était contraire à toutes les valeurs de la République. La CNIL et le défenseur des droits ont été saisis. Robert Ménard, de son côté, a fait machine arrière et affirmé qu'il n'y avait pas de fichage des élèves scolarisés à Béziers. François Hollande, qui était donc en visite en Arabie Saoudite aujourd'hui, visite au cours de laquelle le chef de l'État a resserré les liens de la France avec les États de la péninsule arabique, liens économiques avec la vente des Rafales au Qatar, mais aussi diplomatiques, puisque le programme nucléaire de Téhéran, qui inquiète les monarchies du Golfe, était au menu des discussions. Au programme également de ces discussions, le Yémen, toujours en proie à de graves troubles politiques. Aujourd'hui, la ville frontalière de Najran était touchée par des obus de mortier et des roquettes Katyusha tirées par les rebelles chiites Houthis. La coalition arabe dirigée par l'Arabie Saoudite qui mène des opérations au Yémen contre les Houthis a promis une riposte. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque au Texas d'un centre de conférence où avait lieu un rassemblement islamophobe. C'est sa première revendication d'une action aux États-Unis. L'attaque s'est déroulée dimanche soir. Les deux hommes qui ont ouvert le feu contre le centre de conférence où se déroulait un concours de caricatures de Mahomet ont été tués sur place par la police. L'un des deux assaillants était sous la surveillance des autorités américaines. Le médiateur des Nations Unies sur la Syrie, Stéphane de Mistura, a entamé aujourd'hui à Genève de nouvelles consultations à la recherche d'un règlement négocié dans ce pays après plus de 4 ans de guerre. Pour la première fois, il a dit lors d'une conférence de presse espérer que des représentants de l'opposition armée syrienne répondront à son invitation et viendront au bord du lac Léman. Pour terminer, le temps de demain, nuageux et instable au nord de la Seine, plus généreux autour de la Méditerranée. Les températures de la matinée seront comprises entre 12 degrés à Brest et 20 à Marseille.
Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Et tout de suite, donc, le rendez-vous, Laurent Goumard.
Merci Sarah Petitbon, on vous retrouve à 22h pour le journal de la rédaction. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. I believe men of talent have a part to play in the war to come. Allez, ne traîne pas. Va. Mon nom n'est-il pas Talbot? A ruler loved by millions with a powerful army and the right family name. Ne déshonorez pas ce nom honorable en faisant de moi un bâtard et un misérable.
Eh bien, on reste en famille ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de séries, de théâtre, d'épopées, de décapitation, d'heroic fantasy et même de Dallas. Avec Thomas Joly qui joue et met en scène Henri VI pour 18 heures de théâtre, 150 personnages, 15 actes. Un défi théâtral qui vient d'être récompensé par le Molière du meilleur metteur en scène de théâtre public, Émilie Chaudet.
Y a-t-il un autre endroit au monde où des centaines de personnes peuvent rester enfermées ensemble pendant 18 heures? C'est le metteur en scène lui-même qui pose la question et impose avec Henri VI l'évidence de la réponse théâtre.
19h30, plateau série avec Mathieu Pot-Bonneville qui dirige un essai collectif sur la série Game of Thrones. 5 saisons pour ce premier blockbuster de la télévision câblée américaine, Manu Farine.
Ou comment Game of Thrones, série désespérante qui ne désespère pas, dit quelque chose de l'état contemporain, de la fiction et sans doute du philosophe aujourd'hui.
Sans oublier la session live du mardi, ce soir de La Soul avec John Milk et Émilie Chaudet.
Accent R&B, voix falsetto pour un premier album de l'injonction amoureuse, Treat Me Right. suite. Une session programmée par notre réalisateur Thomas Beau.
On a eu du mal avec le mot session. Hein. Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez qui s'ouvre sur le son du jour.
Je vais d'abord répondre à mes juges et je vous répondrai éventuellement après, mais pas avant.
Donc on vous réinvitera et vous viendrez nous expliquer que vous ne répondez pas à nos questions.
Je ne crois pas.
On va parler de foot. Ça au moins, ça vous intéresse pas non plus. Bon, bah, écoutez.
Je parle de foot avec des gens qui connaissent le foot.
D'accord.
Voilà, pas avec vous. Parlez quoi. Bah, parlez avec le mec qui a l'oreillette.
Vous savez ce qu'on va faire.
Oui.
On va lancer une page de pub et puis on va clore cette interview. Ouais, Mickaël Darmon est là. Il peut rendre. Peut-être que vous allez répondre à ses questions à lui.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour.
C'est un son du jour qui ne date pas d'aujourd'hui, il date d'octobre 2014. À ce moment-là, Audrey Pulvar reçoit Bernard Tapie dans son émission 18h politique qui porte bien son nom sur iTélé. Et vous l'avez entendu, il refuse de répondre à ses questions sur les différentes affaires judiciaires où il est mis en cause. Le débat s'échauffe et se termine, comme vous le voyez, sur une remarque assez sexiste, on peut le dire. Alors aujourd'hui, dans le journal Libération, 40 femmes journalistes politiques dénoncent le sexisme et les attitudes auxquelles elles doivent faire face quand elles sont face à des hommes politiques, qui sont le plus souvent des hommes blancs et parfois âgés. Signé notamment par Karine Bécard de France Inter, Christine Moncla de France Culture, Ruth Elkrief de BFM et j'en passe. Cette tribune intitulée « Bas les pattes » appelle à un changement de comportement en urgence.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. Le Pen Club, qui rassemble plusieurs centaines d'écrivains américains pour défendre les valeurs de tolérance et de liberté d'expression, a annoncé en mars dernier son intention d'attribuer l'un de ses prix les plus importants, celui du courage et de la liberté d'expression, à Charlie Hebdo. La remise du prix doit avoir lieu ce soir au dîner de gala annuel de l'association, mais fin avril, 6 auteurs membres donc de ce fameux Pen Club annoncent qu'ils boycottent cette cérémonie et qu'ils s'opposent à l'attribution de ce prix.
Oui, et ils lancent une pétition sur le site américain The Intercept qui bientôt sera signée par 204 écrivains américains en tout, tous membres du Pen Club, ça fait beaucoup, parmi lesquels de très grands noms de la littérature de gauche américaine, Joyce Carol Oates, Peter Carey, Juno Diaz ou encore Michael Ondaatje. Dans cette pétition, ils accusent Charlie Hebdo, je cite, d'avoir pu causer avec les caricatures de Mohamed une plus grande humiliation et une plus grande souffrance à une catégorie de la population française, une large partie musulmane pratiquante déjà marginalisée et rendue victime. Les signataires indiquent qu'ils ne combattent pas Charlie Hebdo, mais je cite, qu'il y a une différence entre soutenir une liberté d'expression qui va à l'encontre de l'acceptable et récompenser une telle liberté d'expression. Alors parmi les signataires de cet appel, il y a aussi l'écrivain Russell Banks, et qui explique que même s'il était à Paris au moment de la tuerie, qu'il a été lui aussi très ému et choqué, eh bien, il a tout de suite été contre la remise de ce prix.
My first response was that I thought Penn was squandering its
Ma première réaction, ça a été de penser que le Penn Club était en train de mettre en jeu sa respectabilité du point de vue moral et politique. Historiquement, ce prix a toujours été donné à des journalistes qui ont mis en jeu leur vie pour améliorer vraiment le sort des citoyens. Je n'ai pas l'impression que des dessins de presse qui sont délibérément provocants et sont faits pour insulter, pas pour éduquer, ni pour être des œuvres d'art comme ce que fait Charlie Hebdo, ce n'est plus une question de liberté d'expression. Ce que fait Charlie Hebdo n'a rien d'essentiel pour la population française ou celle du monde. Ils sont tout à fait libres de le faire, mais nous n'avons pas à les récompenser pour ça.
Cette pétition et les 204 auteurs qui l'ont signée ont été aussitôt dénoncés par plusieurs intellectuels comme Salman Rushdie et plusieurs éditorialistes.
Oui, effectivement. Alors parmi eux, il y a Michael C. Moynihan, c'est un éditorialiste américain pour le site The Daily Beast. Il est proche de Salman Rushdie et il s'est pendu aujourd'hui d'une tribune très très énervée contre cette pétition et ses 204 écrivains. Il explique qu'il est totalement ironique que Charlie Hebdo, qui a été le journal par essence des 68 arts français, soit pointé du doigt par des écrivains qui sont majoritairement tous des écrivains très respectés de gauche, qui pour beaucoup, eux aussi, étaient des 68 arts. Mais pour lui, leur position s'explique par une profonde méconnaissance de Charlie Hebdo.
Je pense que la plupart de ces gens n'ont absolument rien compris à ce qu'est Charlie Hebdo. Ils n'en avaient jamais entendu parler avant le massacre. Ils ont signé cette pétition en faisant confiance à leurs amis, sans se poser de questions. Pour ne pas être raciste, il faut dire que juste après la tuerie, il y a eu un article qui a dénoncé le racisme de Charlie en publiant plusieurs caricatures hors de leur contexte. Notamment, l'une où l'on voyait Christiane Taubira dessinée comme un singe, ce qui semble très raciste, mais personne n'a vu le logo du FN dessiné au-dessus et n'a compris qu'il s'agissait de second degré.
Il semblerait aussi que les 204 écrivains qui ont signé cette pétition ne soient pas tout à fait d'accord entre eux.
Oui, alors par exemple, Russell Banks, vous l'avez entendu, n'est pas tout à fait fan de Charlie Hebdo, mais il ne souscrit pas du tout à l'accusation d'islamophobie, voire de racisme contre Charlie Hebdo. D'autres, en revanche, comme Joyce Carol Oates, n'ont pas hésité à comparer Charlie Hebdo à Mein Kampf. Autre exemple de discordance entre les romanciers qui ont signé cette pétition, le romancier Telju Cole a expliqué que lui, il aurait préféré qu'on attribue ce prix aux étudiants kényans qui ont été assassinés, les 147 étudiants kényans, plutôt qu'à Charlie. Russell Banks, lui, il estime au contraire qu'il ne faut pas récompenser Charlie pour éviter justement une confusion de plus en plus dangereuse et systématique entre héros et victimes.
I was also, you know, witness to the kind of hypocrisy of American and.
J'ai été témoin de l'hypocrisie des chefs d'État et de certains politiciens quand ils ont marché pour Charlie Hebdo. J'ai eu la sensation qu'il y avait le même type d'hypocrisie dans la démarche du Pen Club, que finalement récompenser Charlie, c'était glamour. J'ai l'impression surtout qu'avec ce prix, on détruit encore plus la différence fondamentale entre victimes et héros. Aux États-Unis, depuis le 11 septembre 2001, on a tendance à confondre les deux de plus en plus. Ici, pour moi, Charlie est victime et pas héros.
Parmi les signataires, il y a aussi certains auteurs qui, eux-mêmes, ont pu être taxés de racisme.
Et ben c'est justement le cas de Joyce Carol Oates, dont plusieurs tweets récemment ont été taxés d'islamophobie. En fait, pour Michael C. Moynihan, l'éditorialiste dont je vous parlais tout à l'heure et que j'ai interviewé, cette pétition, elle témoigne d'un glissement d'une certaine gauche américaine qui, de 68 tard et anticléricale, serait devenue particulièrement attentive et respectueuse de la religion, notamment de l'islam, dans un pays où, depuis le 11 septembre, l'islam est extrêmement diabolisé. Tout simplement, ils font une lecture trop américaine de ces événement. Écoutez Michael Moynihan.
And look, I understand the idea that because Islam has been.
Je comprends très bien que l'islam a été traité de manière très injuste aux États-Unis depuis le 11 septembre. La plupart des Américains sont absolument ignorants sur l'islam, qu'il y a eu beaucoup d'amalgames, mais on ne peut pas combattre cette bigoterie et cette ignorance américaine en accusant violemment Charlie Hebdo et le Pen Club d'avoir des tendances racistes. Il s'agit ici d'une gauche bien pensante qui fait une grosse erreur en s'en prenant à la France parce que c'est facile.
Voilà, alors les 204 auteurs qui ont signé cette pétition, qui sont tous membres du Pen Club, n'ont pas tous décidé de boycotter ce dîner. Certains seront présents et on attend de voir justement comment ils se conduiront quand on remettra ce prix à Sébastien Thoré qui vient le recevoir justement au dîner de gala du Pen Club.
Peut-être une réaction de votre part, Mathieu Pottebonneville.
Oui, je trouve ça un tout petit peu problématique de rabattre le problème sur le fait que les Américains seraient mal informés. Parce que je ne suis pas sûr que nous, qui sommes très bien informés, soyons moins au rouet dans cette histoire. Je crois que c'est Scott Fitzgerald qui disait que la marque d'un grand esprit, c'est qu'il devrait pouvoir penser deux choses contradictoires sans cesser de fonctionner. Je crois que nous sommes très exactement dans cette difficulté, et depuis plusieurs mois maintenant, d'avoir à affirmer avec la même force et la même inquiétude l'absolue défense de la liberté d'expression et le caractère absolument intolérable de ce qui s'est produit et le caractère problématique qui avait été posé avant les événements à l'encontre d'une certaine politique éditoriale de Charlie Hebdo qui, moi, à l'époque, avant, m'avait posé problème.
Zoé, eh bien, on passe au bref.
Et on ouvre avec l'attribution du prix Goncourt du premier roman à Kamel Daoud pour son roman Meursault contre-enquête, sorte de réponse de continuation du roman d'Albert Camus, L'étranger. Il était favori à l'antenne dernier dans bien des prix et il était passé justement à côté du Goncourt. Régis Debray, l'un des jurés du prix, l'a d'ailleurs évoqué en annonçant « J'aurais aimé que cela vous arrive plus tôt ».
D'autres prix encore ?
Oui, Patrice Franceschini et William Cliss sont aussi récompensés, puisque c'était la première fois que les trois petits Goncourt, dix petits Goncourt, étaient remis en même temps. Celui de la nouvelle va donc à Patrice Franceschini pour première personne au singulier, une nouvelle parue aux éditions Point, et celui de la poésie à l'œuvre de William Cliff, poète qui se réclame autant de François Villon que de Baudelaire.
La SNCF offre 16 espaces à des artistes en résidence.
La compagnie ferroviaire française a sélectionné 16 bâtiments et jardins qu'elle possède mais qui sont totalement inutilisés pour le moment. Ils vont être mis à disposition de projets culturels et artistiques qui vont durer certains quelques heures, certains plus de 6 mois. Si vous êtes tenté, sachant qu'un appel à manifestation d'intérêt a été lancé aujourd'hui et que les heureux élus seront annoncés début décembre.
Et la dernière, parce qu'il en faut une.
C'est une petite histoire de journalisme qui n'a peur de rien, là encore. Alors on se pose la question de bon goût, de mauvais goût, de courage, mais aussi cette fois du côté des journalistes et surtout du côté des lecteurs, puisque c'est l'histoire du trimestriel Vanguardiste, un trimestriel autrichien qui est un bilingue allemand-anglais qui n'existe normalement qu'en édition numérique. Mais cette fois-ci, le journal a décidé de faire une petite exception. Il va paraître en papier, pas sous n'importe quelle forme. Alors en fait, c'est un numéro qui sera dédié à la question du sida, au héros du sida, qui évoque les progrès qui ont été faits en matière le fait de soigner la maladie, mais surtout qui évoque le regard de la société sur les séropositifs et qui dresse un constat très alarmant, car encore aujourd'hui, les malades font l'objet d'une grande stigmatisation, en tout cas dans les pays du Nord. Et pour dénoncer ça, le trimestriel a décidé donc de faire paraître en imprimé son journal, sauf que l'encre qui a servi à imprimer ses journaux aura été mélangée avec le sang de 3 personnes séropositives. C'est-à-dire que quand vous le touchez, il y a ça. La couverture rend hommage aux HIV Heroes, donc les héros du HIV qui ont accepté de donner leur sang pour cette couverture. Voilà, nous avons voulu prendre position contre la stigmatisation et contre les peurs irrationnelles qui entourent encore le VIH et les séropositifs. Quand on tient dans sa main ce magazine, c'est comme tenir un séropositif dans ses bras. Rien ne peut se passer, rien de mal ne peut vous arriver. Donc il y a 3000 exemplaires imprimés de cette manière qui peuvent être commandés en ligne pour 50€ et puis 15000 exemplaires normaux qui seront disponibles au prix de 10€. Tout là, les prix de cette vente iront à une organisation caritative.
Un commentaire, Mathieu Peu de Bonneville, je vous voyais presque effaré par cette nouvelle. Oui. Entre l'effarement et la stupéfaction.
Oui, effarement au départ, intérêt à la fin. Je trouve qu'il y a quelque chose du body art dans cette affaire. Peut-être que François Bayrou et Nicolas Sarkozy pourraient s'échanger un exemplaire, par exemple.
Oui, c'est à leur dernière déclaration. Zoé ?
N'oubliez pas que vous pouvez réécouter ou podcaster ce journal et qu'il est évidemment disponible sur la page du Journal de la Culture sur le site de France Culture.
Le rendez-vous.
Maintenant, hâte-toi de partir. Le roi, tu le sais, arrive, et l'on te trouve avec moi, tu es mort.
Si je me sépare de toi, je ne puis vivre et mourir sous tes yeux.
Emporte mon cœur avec toi.
Plateau épique avec vous, Thomas Joly, comédien, metteur en scène. Vous avez reçu la semaine dernière le Molière du meilleur metteur en scène de théâtre public pour Henri VI, la pièce de Shakespeare que vous jouez en ce moment aux ateliers Berthier Théâtre de l'Odéon à Paris, avec votre compagnie, la Piccola Familia. Il s'agit d'une fresque dynastique de 18 heures, divisée en 2 cycles de 9 heures chacun, une pièce en 15 actes, un entracte toutes les 2 heures à peu près pour 50 ans d'histoire, depuis la mort du roi Henri V d'Angleterre, 2 guerres, une révolution, 150 personnages dont 43 meurent, joués par les 21 acteurs de votre compagnie. Il vous a fallu 5 ans, j'ai l'impression de jouer au loto. Il vous a fallu 5 ans pour monter ce projet depuis 2011, un défi théâtral, physique, technique, artistique et financier. Au départ, qu'est-ce qui motive cette pièce ? Pour vous.
Le désir. Et ça, je n'y peux rien. Je suis un être fait comme ça. Je la découvre en 2004 en tant qu'acteur quand je suis élève au Théâtre National de Bretagne. Et d'abord, j'ignorais que le théâtre pouvait générer, en tout cas à l'écriture, des objets comme celui-ci. Maintenant, je le sais, parce que Cromwell de Victor Hugo manque aussi à nos scènes. Empereur et Galiléen d'Ibsen manque aussi à nos scènes et il y en a d'autres. Donc je découvre en tant qu'acteur en 2004 et puis en 2009, au cours d'un été de désœuvrement, de dépression, de rupture amoureuse et donc de vacances annulées, etc. Je me dis comment passer mon été, si ce n'est à relire peut-être les pièces historiques de Shakespeare, ce qui sera en tout cas pas du temps perdu. Et Henri VI, que je relis à cet été-là, me frappe, me touche et fait naître en moi un désir irrépressible. Alors à l'époque, j'ai 27 ans, j'ai fait 2 spectacles, ma compagnie, on est à ses balbutiements administratifs et de structuration. Je sais bien que c'est impossible, je sais que, mais comme l'amour, hein, des fois ce n'est pas la personne la plus évidente, des fois ce n'est pas le plus confortable, mais je n'ai rien pu faire contre ça et donc je m'y suis mis dès 2010, 6 mois après. J'ai d'abord démarré le travail, on a monté 2 heures et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, eh bien nous sommes arrivés à l'entièreté, c'est-à-dire aux 18 heures.
Vous avez créé votre compagnie en 2006 avec ce nom, la Piccola Familia. Mm-hmm. Dans quelle histoire du théâtre ce nom italien vous inscrit ?
Il m'inscrit dans l'histoire dans une volonté de théâtre de troupe, de compagnie, d'être ensemble, de travailler sur la durée avec un groupe d'acteurs et d'actrices et de techniciens pour essayer de développer un langage et d'éprouver ensemble, dans la durée, le théâtre. J'avais le choix à l'école, en sortant de l'école du TNB, de devenir un acteur tout seul, qui est pris de projet en projet. Mais moi, l'idée du théâtre que j'ai, c'est une idée accompagné, en tout cas, d'être accompagné, d'être ensemble pour traverser les œuvres.
Avant de parler de la pièce, je sais que vous avez commencé à prendre des cours de théâtre à l'âge de 11 ans. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Après avoir arrêté la musique et la danse, par ennui, dites-vous, qu'est-ce que le théâtre a révélé ?
Et la radio.
Et la radio ?
Eh oui, j'ai même été animateur radio quand j'étais petit.
Mais à quel âge ?
Eh ben, Thomas en cinquième, donc j'avais 10 ans et j'animais une émission pour les enfants sur une radio locale à Rouen tous les mercredis après-midi.
Et ça consistait en quoi ?
Ça consistait en gros à parler des musiques et des chanteurs et des chanteuses à la mode, des jeux vidéo et des films qui passaient à la télé. On faisait gagner des places de cinéma aussi. C'était une émission pour enfants. Mais effectivement, le théâtre, pourquoi le théâtre ? Je crois que c'est l'histoire d'abord du groupe, je le redis. Et puis là, à l'époque, c'était l'idée d'endosser des rôles, de travailler comme ça à une chose proche du déguisement et du jeu d'enfant, je pense. Et puis petit à petit, assez rapidement, en fait, puisque j'ai été très vite intégré dans une compagnie de théâtre d'enfants, j'ai vite compris la possibilité que j'avais à m'exprimer. Alors c'est un peu paradoxal, mais être exposé devant un public, être dans la lumière tout seul, eh bien c'est là où je me sens finalement le plus proche de moi que maintenant ou dans la vie réelle. C'est un paradoxe, mais c'est cet endroit-là qui m'a fait me sentir connecté à moi-même sur le plateau de théâtre. Voilà pourquoi le théâtre est devenu mon art préféré.
Mathieu Pot-Bonneville, tout à l'heure on parlera de séries. Je me demandais quel spectateur de théâtre vous étiez, si vous l'êtes. Puis je vous voyais prendre des notes et le vieux réflexe du prof, c'est « on peut savoir ce que vous avez écrit sur votre carnet ?»
J'étais très touché par la description de ce que c'est que se trouver sur une scène de théâtre pour avoir fait le prof pendant quelques années. Pendant quelques nombreuses années, j'y retrouve quelque chose. c'est un autre genre de feu de la rampe. Non, je suis touché par l'ambition de l'entreprise, par cette manière de tirer sur les bords de la carte pour les tirer autant qu'il est possible et pour aller au-delà des limites reçues, des limites acceptables, des limites supportables par les spectateurs de cette entreprise-là. Je trouve ça très fort. Et ça ramène, on parlera de série tout à l'heure, ça ramène Shakespeare du côté d'une forme d'art excessif. Ça on enlève le caractère patrimonial et poli pour le rendre au fond à son côté insupportable.
Et ça faisait aussi effectivement ce que vous dites là, ça faisait partie aussi des désirs d'un désir au départ, l'idée de faire exploser peut-être un plafond de verre, en tout cas d'essayer, puisque la politique culturelle telle qu'elle est conçue effectivement met de côté ces œuvres là qui sont dites immontables pour de mauvaises raisons. Ici c'est un chef-d'œuvre, alors c'est le chef-d'œuvre d'un jeune auteur à l'époque. Shakespeare, c'est une de ses premières pièces, alors oui, la pièce a des défauts, mais elle est un chef-d'œuvre et il était pour moi impossible qu'elle reste sur les étagères seulement pour des questions logistiques, techniques ou financières.
Quel genre de défauts vous avez pointé ?
Eh bien, par exemple, la séparation des amants qu'on a entendu tout à l'heure entre Marguerite et Suffolk est bien trop longue par rapport à celle de Roméo et Juliette, mais on retrouve comme ça des motifs qu'on retrouvera plus tard. On voit chez Lady Eleanor déjà les prémices de Lady Macbeth, on voit dans la méditation d'Henri VI, qui est peut-être un peu répétitive, mais on voit déjà la méditation du roi Lear. Dans le rapport qu'il a avec son oncle, on voit déjà la mélancolie d'Hamlet. Les motifs vont se repérer plus tard dans ces pièces un peu mieux calibrées. Là, c'est un jeune auteur gourmand qui s'essaye, qui se cherche. Et ça tombait bien aussi puisque j'étais dans le même élan. Je suis un metteur en scène petit qui se cherche et qui s'explore avec Shakespeare.
Émilie Chaudet.
Vous avez dit à propos d'Henri VI, dans votre pièce, que certains éléments de costume avaient été récupérés chez Emmaüs. Sur scène, on voit des rubans de gymnastique rythmique et sportive qui servent d'épée, des rouleaux de papier toilette colorés qui servent de projectiles de guerre. Il y a aussi des cavaliers qui se servent de chaises comme de montures, de chevaux. J'imagine que ce n'est pas une question de moyens. Qu'est-ce que ça dit, tout ça, du théâtre que vous pratiquez ?
Le théâtre de Shakespeare est un théâtre qui s'appuie sur la convention et sur ce lien indissociable entre le public et la scène à partir du moment où il est exprimé. Moi, je suis allé au Globe quand j'ai commencé cette histoire d'Henri VI. Je me suis dit, il faut que j'aille voir un petit peu dans quel espace cet auteur a écrit. Et puis, j'ai été stupéfait de voir un Henri IV, d'abord debout, à ciel ouvert, où j'ai pu aussi m'accouder à la scène. Et puis, de voir qu'ils ont fait 4 heures d'Henri IV avec un voile, enfin une toile et puis une chaise pour le trône. J'en ai été sidéré et je me suis dit, voilà comment est-ce qu'on peut finalement tout faire. Alors, Shakespeare et Henri VI posent un milliard de problématiques pour la mise en scène. Il faut tout y répondre. Bien sûr, nous ne sommes ni des chevaliers, nous ne savons pas nous battre à l'épée. Donc, il est hors de question de faire semblant que nous savons le faire. Les rubans sont une thématique qui est retrouvée tout au long de la mise en scène, un élément scénographique qui est repris. C'était l'idée de travailler sur un objet qui à la fois rappelle le faisceau d'une lame et puis en même temps donne aussi un peu la dimension épique. Les chaises, parce que nous ne savons pas monter à cheval. et puis que nous ne pouvons pas faire monter des chevaux. De toute façon, nous ne sommes pas dans la reconstitution historique. Shakespeare est un poète, sa pièce elle-même est blindée d'erreurs historiques qui sont anachroniques. Donc l'idée est vraiment de créer un objet d'art et pas un objet reconstitutionnel. C'est pas le Puy du Fou, quoi, en gros.
Vous avez découpé cette pièce comme une série, en quelque sorte, avec des épisodes titrés sur le programme, des entr'actes programmés toutes les heures 45, qui interrompent souvent l'action à un moment crucial, ce qui est le principe même de la série. L'écriture des séries, est-ce que ça a pu nourrir votre écriture dramatique, sachant que je sais que vous regardez les séries House of Cards, voire même Dallas, et d'ailleurs pourquoi pas, c'était très bien. Allez.
Eh bien écoutez, sur cette question de la série, je dois, et ça tombe bien puisqu'on va pouvoir certainement en parler, je dois dire que, effectivement, je suis cette génération-là, vous avez raison, mais les séries sont surtout calquées, il me semble, sur les structures narratives de Shakespeare. Effectivement, j'ai mis les entr'actes à des cliffhangers. Mais ces endroits sont les entr'actes même de Shakespeare, qui avait déjà dans son écriture la conscience de la sérialité de ses épisodes. Pourquoi est-ce qu'il avait cette conscience-là ? Parce que Shakespeare est un auteur qui écrit pour un public, je l'ai dit, debout, qui remue, qui mange, qui fornique, paraît-il même dans les coins, qui n'est pas captif comme aujourd'hui dans une salle noire, bien assis avec les portes fermées et les téléphones débranchés. Donc il a besoin de convaincre son auditoire, de le garder avec lui. Il crée ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'entertainment, et donc il génère comme ça, narrativement, des tactiques. Celles des entr'actes, celles de l'épisode, celles que j'ai reprises effectivement dans Henri VI et qui nous font évidemment aujourd'hui penser aux séries télévisées.
Mathieu Pot-Bonneville ?
Oui, c'est absolument le cas. Le fait est que les séries s'inspirent largement dans leur structure, mais aussi dans leurs obsessions familiales et interminables, dans cette manière de dérouler de façon indéfinie le roman des familles et celui des politiques. Il y a quelque chose de très profondément shakespearien.
Manu Farine ?
Oui, non, c'était pour revenir justement sur ce que dit Mathieu Pot-Bonneville, parce que vous êtes de ceux qui pensaient que la série télévisée est au fond indépendante presque du médium et qu'elle est antérieure à la télévision.
Ah oui, la série télévisée est télévisée d'une certaine façon, en tout cas telle qu'on la connaît aujourd'hui, un peu par accident, parce qu'elle tient tout autant du feuilleton du 19e siècle ou des séries cinématographiques, il ne faut pas oublier Judex par exemple, au début du 20e siècle, que du médium télévisuel en lui-même, qui l'a hébergé un temps. Puis aujourd'hui, la question de savoir si on regarde encore les séries à la télévision, dans la télévision, est un problème aussi. On les regarde de plein d'autres manières.
Alors moi, comme j'ai une question, puisque je suis avec un philosophe, c'est une question qui me taraude depuis plusieurs années.
J'ai besoin de venir.
La poser.
C'est le genre de
question qui fait peur.
Super embarrassant.
Non. Écoutez, on assiste, c'est vrai, aujourd'hui, on va vers les séries, on en regarde tous beaucoup. On a vu au cinéma Star Wars qui redémarre, Le Seigneur des Anneaux, enfin tout ça, c'est des récits très très longs, Harry Potter. Ce succès d'Henri VI aussi, alors moi je veux bien... Oui, nous avons bien travaillé, nous avons été sérieux, la mise en scène est certainement pertinente à des endroits, les acteurs sont engagés, le texte est magnifique, bon d'accord, mais ce qui se passe dans ce récit très long et très développé avec les publics, ce qui se passe avec les séries télévisées ou tous ces grands films de cinéma, est-ce que notre époque a besoin de grands récits, notre époque qui serait un petit peu perdue, de grands récits, de grands héros, de destins, est-ce qu'on a ce besoin en période de crise et donc de manque de sens, de retourner comme ça vers ces grandes histoires qui ont fondé l'humanité ?
Les grands récits qui avaient été ignorés par une partie de la littérature ces dernières années. Mathieu Pot-Bonneville.
Il y a toute une littérature là-dessus, il y a toute une philosophie là-dessus. On a beaucoup parlé avec la postmodernité de fin des grands récits. Je crois que ça procède de désirs assez contradictoires. Il y a le désir de retrouver des formes de fiction amples à la dimension du monde. Il y a le désir aussi contradictoire de ne pas voir disparaître trop vite les personnages auxquels on vient de s'attacher. Bien évidemment, les séries jouent avec ce principe-là, par exemple en tuant leurs personnages principaux. Ça arrive dans Game of Thrones. Mais il y a cette façon de chercher dans la fiction à la fois un horizon et un réconfort, ce qui est au fond un désir assez contradictoire et assez paradoxal. Mais il y a une belle matière à faire des fictions.
Émilie.
Dans la pièce, il y a un personnage qui revient, un peu particulier, qui revient à plusieurs reprises. C'est la rhapsode. C'est en général avant ou après un entr'acte pour faire le point sur la progression de l'intrigue et qui a la particularité de s'adresser directement au spectateur. C'est une petite femme sans âge dans une petite robe noire interprétée par la comédienne Manon Torel. La seule qui s'inscrive par son style, sa gestuelle et son phrasé dans le temps du théâtre élisabétain. On en écoute un extrait.
Mesdames. Messieurs, vous avez dû jusqu'ici pleurer, rire, vibrer, frémir, Du moins, nous l'espérons, car nous nous y sommes employés. Mais l'humain est faillible. Et la magie du théâtre a ses limites. Aussi, après cette scène d'une puissance émotionnelle sans pareille, nous sommes contraints de vous faire assister à une scène de ménage.
Alors ici, on vient de l'entendre, donc la rhapsode comble l'attente pendant un changement de décor. Comment ce personnage qui n'existait pas dans le texte original de Shakespeare s'est imposé dans votre mise en scène ?
Alors d'abord, c'est un procédé shakespearien dans Henri V. Le prologue d'Henri V, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un personnage qui arrive devant le public pour dire « Voilà, nous ne sommes pas des rois, mais il faut nous imaginer royaux. Nous ne savons pas monter à cheval, mais il faut imaginer nos destriers écumants. Nous ne savons pas nous battre, nous n'avons que des épées en bois, mais voilà, imaginez et faites que les piques et le souffle viennent de votre imagination aussi, participer au spectacle. » Ça, c'était la première idée de mettre comme ça la convention en place avec les spectateurs. Mais l'autre idée qui m'est venue en fait en regardant de plus près ce qui s'était passé dans des mises en scène que je n'ai pas vues, celle du Soulier de Satin, de Vitesse ou du Mahabharata de Peter Brook, j'ai constaté qu'ils avaient mis en place un complice, un hôte, quelqu'un qui était comme ça le relais avec le spectateur, qui évidemment est un petit peu sceptique, voire avec beaucoup d'appréhension. Au moment où il rentre dans la salle, il se dit « Est-ce que je vais tenir 18 heures ? Est-ce que je vais comprendre ? » Et c'est bien normal, hein, dans une époque qui va très vite, où on est sur l'efficacité permanente et la volonté de plaisir immédiat, et dans cette époque de vitesse, forcément, Henri VI, c'est un petit peu décalé. Et ce personnage-là était aussi le garant, en fait, l'accompagnateur, entre guillemets, du spectateur.
Encore une question sur la rhapsode. C'est une figure qui vient de la Grèce antique. Quelle était sa fonction, précisément ?
Elle était là pour... dans le spectacle, vous voulez
dire ? Non.
Dans la Grèce antique.
Le rhapsode, d'ailleurs, c'était un homme.
Oui, c'était celui qui raconte l'histoire, non ?
Et qui traverse, c'est ça, je crois, qui traverse les villes en prenant en charge les grands textes,
c'est
notamment
celui
les
qui vient réciter, oui, les mythes, les grands mythes, qui est le espèce de troubadour, en fait, un troubadour antique. On lui a donné ce nom parce qu'elle est celle qui est la garante, entre guillemets, de la compréhension de l'histoire et celle qui vient donner au spectateur les clés de la compréhension. Aussi. On lui donnait ce petit nom-là parce qu'on trouvait ça mieux que narratrice ou accompagnatrice. Voilà.
Il est question que vous montiez Richard III prochainement et vous avez indiqué que ça durerait 24 heures. Pourquoi cette durée ?
Si jamais Richard III est joué dans la continuité d'Henri VI. Parce que si on compte bien avec les entr'actes et tout ça, et bien effectivement nous devrions arriver à 24 heures. Alors on ne pourra pas le faire. Je ne crois pas qu'on puisse le faire parce qu'on tombe là sur des problématiques de logistique, de technique, voire même de législation du travail, hein, pour être tout à fait clair. Donc, je ne sais pas si nous pourrons jouer 24 heures d'affilée. Mais en tout cas, Richard III, effectivement, sera monté dès l'automne pour à la fois continuer, mais surtout clore cette tétralogie pour qu'enfin on puisse l'avoir vu comme ça en 3D, au moins une fois un jour en France.
En 3D. On vous a demandé, comme à chaque invité depuis le début de la saison, de nous apporter un son qui vous a marqué. Voici le vôtre.
Je crois qu'il faut dire aux téléspectateurs qui peuvent se dire quoi, tout à coup, l'or coule et le budget de la culture va être couvert de ressources illimitées, il faut expliquer que nous partons de très bas. Vous connaissez ce mot d'André Malraux essayant de convaincre les parlementaires d'augmenter un petit peu la culture et obtenant un doublement. Il disait, après tout, 3 sous multipliés par 2, cela ne fait jamais que 6 sous.
Un commentaire sur ce son que vous avez choisi ?
Bah oui, vous m'avez demandé ce qui m'avait inspiré. Moi, j'ai même envie de dire que cette politique culturelle m'a aspiré, puisque moi, je suis né à ce moment-là, au moment où, en France, il y a cette ambition pour la politique culturelle. Et honnêtement, je pense que la génération qui est en train d'arriver aujourd'hui, celle de Sylvain Creusevaux, Jean Bellorini, Julie Deliquet, Julien Gosselin, etc., est une génération qui vient de ce souffle qui a été porté par cette politique culturelle-là. Et que oui, la politique culturelle s'éprouve et se constate à long terme. Et je voulais le dire aussi, l'entendre aussi ça aujourd'hui, parce qu'à une époque, enfin en ce moment, on voit partout certains élus qui coupent, qui réduisent beaucoup les budgets de la culture. Alors oui, c'est une solution en période de crise, une solution économique, mais pour moi, vraiment, c'est une aberration politique. Doter à la culture ses moyens, et de creuser le déficit de la pensée. On parlait de Charlie Hebdo tout à l'heure, on l'a vu. Dès que la pensée est arrêtée, la violence survient. Alors pour des événements aussi dramatiques que cela, mais pas seulement, aussi les événements, la violence quotidienne de racisme, de discrimination, d'homophobie et de cette, encore une fois, de cette, ce mépris, cette grossièreté à l'égard des femmes, par exemple. La pensée arrêtée fait advenir la, la violence et le théâtre ne fait que circuler la pensée depuis 2500 ans parce qu'elle est le ciment des sociétés et le ciment du vivre ensemble. Alors, je voulais réentendre ça pour dire aux... Pour dénoncer aussi cette chose-là que certains élus, finalement, font preuve de médiocrité politique au sens étymologique du terme.
Le rendez-vous.
Plateau Valar Morghulis, avec vous Mathieu Pot-Bonneville, philosophe, maître de conférence à l'École nationale normale, plutôt supérieure de Lyon, spécialiste de l'œuvre de Foucault. Vous dirigez aujourd'hui un ouvrage collectif paru aux Prairies Ordinaires, titre Game of Thrones, série noire, 9 articles, dont le vôtre, sur cette série créée en 2011 par la chaîne HBO, d'après les romans de George Martin. La saison 5 est visible depuis le 12 avril dernier sur Orange. On vient d'ouvrir le plateau sur le très culte et déjà très commenté générique qui joue sur des analogies avec les jeux de plateau comme celui des échecs. Quels indices d'analyse donnent déjà un tel préambule ?
Tous les articles, ou quasiment, que nous avons réunis traitent de ce générique, parce que le générique a donné le vertige à tout le monde, je crois. Ce générique, il donne l'idée d'abord d'une extension géographique extraordinaire, d'une série qui se déroule non point tant sur un axe chronologique que sur un axe territorial. Il est question de territoire et de conquête de territoire, et ce territoire s'étend à chaque saison. On trouve de nouveaux pans de la carte à chaque saison. Dans une esthétique du jeu ou de la mécanique, que la série en même temps va s'employer à démentir un peu, parce que ce jeu se dérègle, ce jeu se complique jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne rien. Il y a une façon comme ça de proposer... Il y a une chose intéressante pour le générique, c'est qu'il survole. Il survole la carte comme si le spectateur avait tout pouvoir de considérer les uns après les autres tous les pans du territoire. En réalité, la série fait absolument l'inverse, puisque le regard qu'elle propose est toujours situé, on est toujours collé ou englué dans la perspective d'un personnage particulier. Il y a une tension entre le global et le local que le générique met assez bien en scène, mais assez ironiquement en scène, en fait.
Thomas Joly, vous connaissez pas vraiment, je crois, cette série. Vous vous en méfiez au départ.
Alors, pour tout vous dire, en 2010, donc je l'ai dit, je démarre Henri VI. Et puis en 2012, arrive Game of Thrones en France. Et tous mes amis me tombent dessus en me disant « Il faut absolument que tu regardes cette série, c'est comme dans Henri VI. » Et alors justement, j'ai dit « Écoutez, je vais d'abord finir Henri VI et je regarderai Game of Thrones plus tard. » Alors effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de ponts avec Shakespeare en règle générale, mais surtout avec Henri VI, puisque l'auteur a même lui-même dit « Je me suis inspiré de Shakespeare, de la guerre des deux roses. » Donc là, forcément d'Henri VI, jusque dans le nom de ses personnages, je crois, puisque dans Game of Thrones, ce sont les Stark, les Lannister, entre autres, et puis dans Henri VI, ce sont les York et les Lancaster.
Les Lancaster, voilà. Absolument. Oui.
Genre de choses où je me suis dit, je ne veux pas être influencé.
Pas nous.
Alors, Shakespearean, peut-être toujours, vous ouvrez, Mathieu Pot-Bonneville, votre article titré La mauvaise saison sur une scène de décapitation qui pourrait être l'une de celles mises en scène par Daesh, autant que l'une de celles, et elles sont très nombreuses, de Game of Thrones. Qu'est-ce que ce rapprochement, avec lequel vous prenez tout un tas de précautions, hein, met en place ? Qu'est-ce qu'il dit à la fois de la mise en scène fictive et de la mise en scène réelle ?
Ce qui était intéressant, et ce qu'il faut toujours faire avec les images, ça c'est Godard et puis Serge Danet qui l'ont appris, c'est chercher l'autre image. Et l'autre image qui, dans l'horizon contemporain, va permettre de lui donner un sens et de s'en décoller un peu. C'est vrai que... pour parler de décoller, de décollation, on trouve beaucoup de décapitations dans Game of Thrones qui font penser à d'autres images qui ont circulé elles aussi sur les réseaux sociaux, qui ont suscité elles aussi des réactions horrifiées et dont le répondant est tout à fait troublant. Ce qui était intéressant à mettre en parallèle de façon embarrassante évidemment, ces deux régimes d'images, c'était de s'interroger sur la façon dont le pouvoir ou la puissance ou la guerre aujourd'hui peut emprunter les atours de la mise en scène cinématographique et
en retour ce que le cinéma, la télévision peuvent essayer de raconter ou de déplacer de ce jeu d'emprunt-là. Moi, ça m'intéressait de voir comment Daesh, lorsqu'ils mettent en scène leurs crimes, s'inspire d'Hollywood, lorsqu'ils mettent en scène l'archaïsme, les premiers temps s'inspirent d'un archaïsme tout à fait fantasmé, là où la série, dans un certain sens, fait la même chose et pas la même chose. Donc c'était ce jeu d'emprunt réciproque et de résistance en même temps qui m'intéressait dans ce parallèle-là.
Alors la question est peut-être, hein, comme le demande le texte qui vient clore l'ouvrage signé Eugenio Renzi, pourquoi meurt-on dans Game of Thrones ?
Alors on meurt dans Game of Thrones pour plein de raisons. D'abord parce que on meurt pour deux raisons contradictoires là encore. On meurt dans la vie réelle. Et au fond, Game of Thrones a une ambition réaliste dans la description du pouvoir et dans la description de ce qui peut arriver à des hommes de guerre lorsqu'ils font de mauvais choix, hein, ou lorsque simplement un accident leur tombe sur la tête.
Qu'ils soient personnages de premier plan ou pas.
Absolument. Et de ce point de vue-là, la hiérarchie narrative est indifférente. Bon. Donc on meurt pour ça. On meurt parce que la série va rejoindre, tenter de décrire ce qui se joue dans la politique réelle. Et puis, contradictoirement, on meurt parce que quand on joue au chevalier, on parlait tout à l'heure de jouer sur scène au chevalier, l'une des choses qu'on préfère faire, c'est mourir, évidemment. C'est s'écrouler avec de longs râles d'agonie et de manière sublime. Et il y a cette dimension parfaitement puérile de jeu avec les émotions premières ou les émotions primaires que sont, pour aller vite, le sexe et la mort. La série navigue vraiment, et c'est l'un des intérêts, entre cette description réaliste, argumentée, instrumentée de la guerre et de la violence, et puis une manière absolument puérile et en un sens touchante de jouer au chevalier.
La série a été aussi décriée, hein, fantasme néo-conservateur, réservoir sexiste, course à l'audience, qui fait par exemple passer du sexe dans le livre initial au viol dans la série. On a donc beaucoup de mal sur la série. Et vous parlez de la position inconfortable qui serait celle du téléspectateur face à une telle série. À quel titre ? Quelles sont les tensions qui sont mises en jeu ? Mathieu Podbonneville ?
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que Game of Thrones, c'est une série sur la guerre et c'est une série en guerre. C'est une série en guerre, en particulier entre un livre, entre l'écriture littéraire, entre un énorme pavé que George Martin a écrit parce qu'il ne voulait plus écrire de séries télévisées, hein, parce qu'il en avait marre du format télévisuel.
C'est ça qui est très beau en fait, c'est série écrite contre une série au départ.
Il écrit un bouquin absolument inadaptable avec des milliers de pages et des centaines de personnages, et ça devient la série la plus téléchargée, la plus regardée dans le monde. Cette tension-là est vachement intéressante. Elle est très intéressante parce que il y a une forme de lutte pour l'hégémonie sur le récit, d'une certaine façon. Le spectateur est pris là-dedans. Alors, quand il est spectateur et lecteur, moi j'avais lu les livres avant de m'attaquer à la série, c'est encore plus jouissif. Parce qu'on repère là où les réalisateurs se battent avec un bouquin qui n'est fondamentalement pas adaptable. C'est particulièrement le cas dans la saison qui est en cours, qui a commencé. Le dernier tome de la série, il est inadaptable. C'est un roman mental, il ne s'y passe rien, et les personnages voyagent et voyagent dans leur tête. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Ben, on bricole, on aménage, on caviarde le texte. Et cette tension-là, cette résistance-là, elle est très intéressante. Elle est très intéressante parce que l'une des choses qui se joue aujourd'hui à Hollywood et dans la fiction, c'est que la fiction de masse est en train de cannibaliser toutes les niches de fiction mineure auxquelles nous tenions depuis les petites voitures, hein, Transformers, jusqu'aux super-héros qu'on lisait quand on était gamin et qui deviennent des objets de consommation jusqu'à l'écœurement. Une fiction mineure comme l'heroic fantasy trouve le moyen à la fois d'avoir un tel succès et puis en même temps de faire sauter la baraque, enfin de faire sauter la machine, ça a quelque chose d'assez impressionnant.
Vous, Mathieu Podbon, Thomas Joly, quelle serait la série qui vous a plus particulièrement marqué dans votre parcours de téléspectateur et homme de théâtre ?
Alors, il y a eu Twin Peaks, c'est soit que c'est la première série que j'ai vue où j'ai crié devant ma télé. Ça, c'est un vrai choc. Mais en fait, la vraie grande série qui m'a remis le goût à ça, c'est 24 heures chrono, que je découvre en 2004, je crois.
Alors, toujours une question de durée, quand même. Et en plus, inscrite déjà, même dans le programme
plus,
de la série.
Et en plus, et là, moi, je suis fasciné. Je ne peux pas décrocher. Je n'ai jamais pu regarder 24 heures chrono sans le binge-watcher. C'était impossible pour moi.
Mathieu Podbonneville.
J'avais cru remarquer tout à l'heure que la durée de 24 heures, c'était
pas différent pour Richard III.
Sur le mode de la boutade, le philosophe Bruce Begbou postait il y a quelques mois, je crois, sur sa page Facebook, philosophe non masculin, commentateur de séries. J'aurais aimé savoir quel était votre point de vue sur ce petit commentaire. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce nouveau matériau travaillé par les philosophes? Est-ce que ça nous renseigne vraiment sur les séries ou est-ce que ça nous renseigne davantage sur, au fond, les modes d'intervention des philosophes?
Alors, il y a deux choses à dire là-dessus. La première, c'est que ce commentaire fait fond sur une hiérarchie reçue entre les arts majeurs et les arts mineurs. Bon, il y a les objets dignes et les objets indignes. Or, si je me souviens bien, Shakespeare a été considéré au XIXe siècle comme un modèle de vulgarité et de bêtise et de violence. Manière de montrer que cette distinction-là, elle bouge. Bon, première manière de répondre. La deuxième, c'est que Bruce Begbou a raison de se poser la question de savoir ce qu'on fait quand on écrit sur un objet qui, d'une certaine façon, n'a pas besoin de vous, fonctionne très bien tout seul, est porté par un marketing immense, industriel véritablement. Est-ce qu'on peut trouver une position qui ne soit pas une position d'être à la remorque? C'est-à-dire, est-ce que le philosophe peut faire autre chose dans cette affaire-là qu'avoir la position de celui qui fait le service après-vente de la série ou qui s'encanaille avec un objet pas très digne pour montrer qu'il est drôlement futé d'en traiter si intelligemment, etc. Est-ce qu'il y a une position possible de réflexion sur ces objets impurs? Eh bien, moi, cette question-là, elle m'intéresse.
Est-ce que les séries ne seraient pas pour vous l'équivalent d'une mythologie pour Roland Barthes? Et je pose la question à celui qui a rencontré l'œuvre de Foucault et qui est peut-être dans les années 90.
Oui, il y a de ça. Il y a absolument de ça, à condition de croiser le Barthes des mythologies et celui de la chambre claire. Autrement dit, à condition de faire une lecture, pour aller très très vite, idéologique des séries, on a tout à fait le droit de le faire. Montrer comment, au fond, la princesse est blonde et les barbares qu'elle délivre sont basanés. C'est curieux, mais c'est comme ça. On peut faire une lecture mythologique et puis on peut s'intéresser à ce qui poigne dans cette image un peu trop lisse ou un peu trop consensuelle, à ce qui fait résistance et à ce qui nous emporte ailleurs. Ça, ce serait le Barthes de la chambre claire.
Et nous ?
Alors la série est tellement, ou serait en tout cas, tellement irriguée par la philosophie que le magazine Lire a consacré un dossier entier au sujet avec une liste de philosophes supposément éclairants où on y trouve Bentham, Kant, Hobbes, bien sûr Machiavel que vous citez également dans votre essai. Vous y ajoutez aussi Merleau-Ponty en fin d'essai en lui empruntant l'expression de la claudication du philosophe que vous associez au personnage très central de Tyrone, le nain, à la fois voyant et handicapé de l'action. Est-ce que c'est une claudication nécessaire et qu'est-ce que vous permet justement cette référence à Merleau-Ponty pour conclure votre essai?
Ouais, c'est une des très très belles pages de Merleau-Ponty où il explique que Machiavel est pris pour le philosophe de l'action et rappelle que Machiavel écrit Le Prince quand il ne peut plus agir, quand il est obligé de regarder parce qu'il ne peut plus agir, parce qu'il est en exil, etc. Ce qui est très intéressant dans Game of Thrones, c'est que tous les personnages de voyants, tous ceux qui voient ou qui entendent la situation sont des éclopés. Bran a perdu l'usage de ses jambes et il gagne un troisième œil. Varys écoute les bruits du royaume et il est eunuque. Tyrion regarde la réalité, il est nain et il perd son nez. Il y a cette manière de troquer une livre de chair contre une capacité à voir qui me semble tout à fait profonde pour le coup.
Pour conclure, on vous a demandé, vous aussi, un son qui vous a marqué. Et voici celui très curieux que vous avez choisi, Mathieu de Bonneville. Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi?
Eh bien, ce sont des musiques traditionnelles aborigènes d'Australie. Et je l'ai choisi parce que le 1er mai dernier ont eu lieu de nombreuses manifestations en Australie contre la politique que le gouvernement et en particulier le Premier ministre Colin Barnett applique aux communautés aborigènes en fermant autoritairement l'accès à l'eau, à l'électricité, etc. sous prétexte que leurs villages, je cite, sont jugés non durables et incapables d'attirer des opportunités de croissance pour l'avenir. Il y a là une politique qu'on croyait révolue avec les derniers Indiens des dernières réserves américaines. Non, elle continue. Elle continue avec les compagnies minières en ligne de mire. Il y a une très belle pétition texte signée par Barbara Glosevski notamment, qui est la grande spécialiste française, qui est parue sur le Huffington Post, qui a repris la revue Vacarme, à laquelle je tiens beaucoup. Et je trouve que à l'heure où on prend beaucoup l'Australie comme modèle pour sa gestion des flux de migrants, par exemple, il est bon de se souvenir quelle violence elle applique à ses communautés autochtones.
Le rendez-vous, la session.
Un son en cache un autre, comme dirait... qui ? Celui qui parle de l'image qui en cache une autre. C'est à peu près la même chose pour les sons. Émilie Chaudet, on se quitte avec...
John Milk, chanteur-organiste lyonnais. Il brouille les pistes avec son pseudonyme de roman américain, un titre d'album tout aussi américain, Treat Me Right, une voix falsetto qui rappelle celle d'un Jamie Liddell ou d'un Mayer Hawthorne. Et pourtant, John Milk est un chanteur et musicien lyonnais organiste de formation. Ce premier album sorti sous le label Underdog Records, c'est un projet en gestation depuis 2011, lorsqu'à l'époque, il sort un premier single avec le DJ Woody Allen sous le titre Choose Your Friends, un titre empreint d'une musique qu'il aime, la soul jamaïcaine. 4 ans après, Treat Me Right s'éloigne un peu de la Jamaïque, mais reste incontestablement dans l'univers sensuel de la soul, comme on va l'entendre tout de suite en direct du Studio 108 sur France Culture. John Milk nous interprète au piano le titre Give Me More Than Time, donnez-moi plus que du temps, comme vous m'avez demandé la traduction, Laurent. C'est à vous, John Milk.
That's why I give me more than time. Oh, give me some life. Your life. Oh, life. Your life.
Merci.
C'était Give Me More Than Time de John Milk sur son nouvel album Treat Me Right, une session programmée, je vais y arriver.
Ah oui, session, c'est dur aujourd'hui.
C'est très dur. Par notre réalisateur Thomas Beau. John Milk sera en concert le 23 mai au Marche-Gare à Lyon, le 31 mai au bateau Lilienne à Marseille et le 26 juin dans le cadre du festival Bête de scène à Toulouse.
D'abord debout, à ciel ouvert, nous n'avons que des épées en bois.
C'est s'écrouler avec de longs râles d'agonie.
Et c'est pas le plus confortable.
Merci à nos invités. Thomas Joly, Henri VI, c'est aux ateliers Berthier, à l'Odéon, à Paris, jusqu'au 17 mai, en partenariat avec France Culture. Et puis Mathieu Pot-Bonneville, Game of Thrones, série noire, c'est aux éditions Les Prairies Ordinaires. Et on pourra à nouveau vous entendre mardi prochain, je crois, au micro de Caroline Brouet, à la Grande Table sur France Culture. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Vous voulez un cachou? Vous savez ce que vous pouvez en faire de vos saloperies de cachou.
Demain, une émission Cinéma français rétrospective Philippe de Broca avec Alexandra de Broca, avec à ses côtés Sophie Dagbert pour son roman Nabab. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manou Farine, Émilie Chaudet, Aïssa Touendoy et Elsa Béranger, journal de la culture Zoé Spez, à la prise de son Juliette Delperou et Bruno Gagnard-Fontanille, et à la réalisation Lise Combe.
On est en retard, il est 19h55, vous êtes sur France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous et à demain.